Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Vous êtes à l'écoute de Radio Capi, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du magazine Étoile. Aujourd'hui, nous parlerons mode, on parlera mode africaine, mode congolaise, peut-être même la mode sans frontières. Nous avons le plaisir de recevoir Joëlle Mumba-Allen, modéliste ou fashion designer en anglais. Elle est également femme entrepreneur, elle a lancé sa société et deux lignes de vêtements. Madame Joëlle Mumba-Allen, bonjour.
Oui, bonjour Nana.
Vous avez quitté le Congo depuis 2001. Aujourd'hui, vous revenez avec des projets. Quelles sont ces opportunités en vue qui vous ramènent dans votre pays après 18 ans d'absence?
Ok, bon, les opportunités que j'ai, c'est dans le domaine de la mode, bien sûr. C'est de, en fait, d'emmener l'expertise que j'ai pu, acquérir aux États-Unis, parce que c'est vrai que ça fait 18 ans que j'ai été là-bas. Pendant ce temps, j'ai quand même eu l'opportunité d'apprendre beaucoup dans le monde de la mode et surtout l'industrie de la mode globalement par rapport à ce que je connaissais ici au Congo, qui est vraiment différent. Alors vraiment comprendre le mécanisme du monde de la mode, donc de fashion world comme on appelle, et je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment profiter à mon pays, dans le sens d'abord de comprendre c'est quoi l'industrie de la mode. Pourquoi, par exemple, les Nigériens aujourd'hui, les Ghanéens sont connus, arrivent à vraiment s'en sortir, à marquer leur travail, non seulement en Afrique, mais à travers les États-Unis, à travers
le monde.
Le monde, voilà. Donc, je crois que, en fait, c'est ça mon idée, c'est de le fait que j'ai vécu longtemps et travaillé longtemps aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de comprendre c'est quoi l'industrie de la mode. Ma vision maintenant, c'est d'emmener ça, ce concept, comprendre c'est quoi en fait l'industrie de la mode. C'est pas juste ce qu'on a, on voit tous les jours, avoir juste une couturière.
Mais c'est comprendre ouais. Comment ça marche, comment on ça est marche, à ouais. Un point A, comment aller à un point B, vers
voilà.
Un point B, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Alors, je le disais, vous avez quitté le Congo en 2001, 18 ans après, vous revenez. Est-ce que pendant cette longue absence-là, quand vous êtes revenu, là, vous avez fait, je crois, à peu près une semaine déjà ici.
Oui.
On a encore ces repères, on sait plus ou moins vers qui se tourner justement pour partager ce projet que vous avez.
Oui, quand même des repères à l'ISAM parce que j'ai fait le lycée technique de la Gombe. Donc j'ai déjà quelques collègues avec qui je suis restée en contact. J'ai aussi quelques amis qui ont vécu aux États-Unis, au Canada, qui sont de retour à Kinshasa. Ça, qui sont aussi entrepreneurs, des femmes, qui sont des repères pour moi. Ouais.
Et mais qui vous aideront certainement dans cette démarche.
Dans cette démarche, voilà.
D'accord. Ouais. Alors, vous êtes née à Likasi, nous sommes dans l'ex-Katanga, vous venez de le dire, vous avez fait l'Institut supérieur des arts et métiers, une école par laquelle votre maman est passée, votre grand-père était aussi tailleur. Est-ce que finalement, c'est une fibre plutôt familiale?
Oui, moi, je pense que c'est quelque chose aussi de naturel que j'ai. Ma mère m'a toujours dit que depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours pris des papiers, je coupais, je donnais des formes des femmes, des vêtements. Donc c'était toujours là, quoi. Ma mère a toujours vu ça et me disait qu'il y avait toujours des papiers dans toute la maison. J'ai toujours eu cette créativité, en fait, de prendre des tissus, de découper des papiers. Donc, c'était toujours quelque chose de naturel que j'ai. Mais je crois que vers 12 ans, j'ai commencé à développer la passion du dessin, en fait, de dessiner des modèles que je pourrais réaliser.
Qu'est-ce que vous dessinez? Parce qu'on a grandi un peu dans ce milieu où les femmes sont plus en pagne avec l'ibaya. Qu'est-ce qu'à 12 ans, vous dessinez?
Bon, moi, je pense que d'abord, le fait que d'être au Congo, la femme, déjà naturellement, a le goût de s'habiller, elle a la passion de s'habiller. Je crois que c'est quelque chose qui m'a aussi inspirée, même inconsciemment. Donc, dans mes dessins, en fait, j'essayais de reproduire ça, ce que je voyais autour de moi, voir un peu les goûts des femmes et tout ça. J'essayais de reproduire ça dans mes dessins. Et quand j'ai réalisé, en fait, que ces dessins pouvaient être réels, ce sont des trucs que je pouvais réaliser en faisant la coupe et couture, c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que j'aille à l'ISAM et que je commence à apprendre toutes les étapes. qu'il faut pour faire des vêtements, voilà.
Alors Joëlle Mumba Allen, après l'ISAM, vous allez en Angleterre pour poursuivre vos études, toujours dans le domaine de la mode. Hein.
Oui.
Et de là, vous y restez un an, vous rencontrez l'amour qui vous emmène, qui vous embarque, j'ai envie de dire, aux États-Unis avec lui. Et donc vous vivez à New York depuis 16 ans aujourd'hui. Oui. Arrivé aux États-Unis, vous avez poursuivi vos études, hein, toujours dans le même domaine.
Oui, c'était une transition assez intense. Parce que, bon, venant du Congo, l'Angleterre, d'abord, c'était un nouveau monde pour moi. Mais, j'étais dans une très bonne école de couture. Et j'ai rencontré mon mari comme ça un jour, qui est un footballeur américain. Et j'ai eu l'avantage d'atterrir à New York, où une des plus grandes capitales de la mode. Et non seulement j'étais à New York, mais j'étais aussi dans un très bon domaine. Le football américain, c'est un grand deal. Hein. Il y a beaucoup de connexions, beaucoup de networking. Et j'ai eu vraiment une bonne équipe qui pouvait m'encadrer dans le domaine. Non seulement je suis repartie à l'école, mais j'ai aussi des couturiers qui sont à New York, qui étaient bien établis, qui m'ont en fait, mentoring, qui ont pu me coacher, qui ont pu m'aider à comprendre d'abord c'est quoi le monde de la mode, comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on crée une ligne de couture et comment s'imposer dans ce monde de la mode?
Alors, Joëlle Mumba Allen, nous sommes en 2008. Vous lancez donc votre société qui s'appelle GKA pour Joëlle Kabena Allen. Et cette compagnie a deux branches et vous allez décider de lancer justement une ligne de vêtements. La première, c'est Ijo et puis la deuxième, c'est Joëlle Allen Collection. Vous voulez transmettre des choses, vous voulez transmettre un style peut-être. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord à lancer une ligne de vêtements?
Bon, d'abord, c'est le fait que j'ai ça. Enfin, je suis allée à l'école pour ça, donc il fallait que j'utilise le talent que j'ai. Ensuite, c'était aussi c'est une expression, en fait. C'est une façon de s'exprimer. Moi, je suis congolaise et je vivais à New York. Beaucoup des Américains, par exemple, n'ont aucune idée de la culture congolaise. Ils n'ont aucune idée de c'est quoi l'Afrique. Et c'est vraiment dommage. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai réalisé que la plupart, l'image de l'Afrique qu'ils avaient, c'était des pauvres enfants qui sont sur la route, qui n'ont pas de quoi manger, qui sont affamés.
C'est l'image de la famine, de la guerre, de la pauvreté, en fait.
Oui, vraiment une image complètement noire. Alors moi, le fait que j'ai grandi au Congo, j'ai vu vraiment le côté positif. Comme on a dit, la femme congolaise, c'est une femme qui est fière, en fait, d'elle, qui s'habille, qui n'a pas beaucoup de gêne. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré en grandissant ici au Congo. Donc, je voulais aussi exprimer ça. Je voulais montrer ça au monde. Je voulais montrer cette face-là. Et j'ai décidé de commencer ma ligne de couture. C'est vraiment pour exprimer cette image, changer un peu ce concept qu'on a qui n'est pas correct sur l'Afrique et montrer qu'on a un beau côté et un côté très créatif aussi dans notre culture, avec une culture assez riche.
Ouais. Alors, vous travaillez avec quel matériau? Est-ce que c'est dans Ijo que vous êtes dans les imprimés africains pour justement témoigner ou vendre cette culture congolaise et africaine? C'est dans Ijo?
Oui. Oui, c'est vraiment dans Ijo, parce que Ijo, c'est vraiment une marque qui est plus internationale, plus globale. J'utilise beaucoup des tissus comme le coton, parce que, étant donné que j'étais aux États-Unis, j'ai quand même accès à beaucoup des cotons de haute qualité, mais avec toujours une touche du pagne pour exprimer le côté congolais. Quoi. Ça fait vraiment assez différent, parce que j'ai remarqué aussi dans mon marché, quand on mettait vraiment des imprimés de la tête aux pieds, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile à vendre aux États-Unis. Donc, j'ai trouvé un moyen de mettre une touche, peut-être sur le col ou bien sur les manches, par exemple.
Oui.
Voilà, et ça se vend très bien de cette façon.
Vous parlez de New York, et on le sait, hein, c'est la ville de l'une des plus grandes villes de la mode, mais c'est aussi une ville très cosmopolite, ça bouge beaucoup. Oui. Comment arriver à s'imposer ou à imposer sa marque, peut-être pas imposer, mais à la faire accepter du moins? J'imagine que ce n'est pas évident.
Pas du tout évident. New York, c'est très complexe et c'est, comme tu dis là, ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. Et vraiment, si tu ne fais pas attention en tant que designer, tu seras complètement perdu. Une des choses qui m'a vraiment aidé à me retrouver, c'est d'abord d'avoir des couturiers qui étaient bien établis à New York et prendre le temps de vraiment comprendre c'est quoi le milieu de la mode. J'étais vraiment pas pressée. J'ai pris mon temps de découvrir, de comprendre le côté technique, le côté mécanique. C'est quoi en fait avoir une ligne de couture? Après avoir fait cela, j'ai pu me démarquer. Et moi, ma force, en fait, c'est dans les blouses. Créer des blouses qui sont uniques, qui ont des formes uniques, des cols différent de ce que on retrouve tous les jours. Alors, parce qu'on peut pas faire la même chose que tout le monde.
Alors là, on parlait essentiellement de Ijo, qui est l'une de vos marques. Mm-hmm. Qu'en est-il de Joël Allen Collection? Là-dedans, vous travaillez avec votre époux, vous travaillez avec votre mari?
Oui, Joël Allen Collection, c'est vraiment une réponse à ce marché-là de New York. C'est vraiment pour cette femme new-yorkaise qui a un besoin spécifique qui est différent par rapport à cette femme internationale. C'est un peu plus simple que celui
que
Ijo. Oui, parce que c'est un peu, comment on dit, safe en français.
Non, allez-y.
C'est vraiment conservateur. C'est un esprit, c'est une femme qui a un esprit conservateur. Elle veut pas trop risquer. Elle veut pas trop, elle veut quelque chose de bien fait, une coupe classique, clean, comme on dit, qu'elle peut porter tous les jours, qui est pas trop visible. Donc, j'arrive à travailler avec cette femme à travers Joël Allen par rapport à Ijo.
C'est plutôt des vêtements qui sont destinés à la femme qui travaille, c'est ça?
Oui,
à la femme qui travaille, c'est quelle tranche d'âge aussi?
Bon, disons de 25 à 45 ans, une femme professionnelle qui est un peu conservatrice, comme je dis, elle peut pas trop montrer la poitrine et tout ça, qui veut vraiment être
correct, sobre, professionnelle, classique, professionnelle.
Voilà. Oui, d'accord. C'est ça, Joël Allen.
Oui. Alors, on marque une petite pause puis nous revenons pour la suite de cette interview.
OK.
Merci si vous nous rejoignez pour la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Joël Mumba Allen, modéliste ou fashion designer en anglais. Vous êtes aussi femme entrepreneur. Vous avez lancé depuis 2008 votre ligne de vêtements qui s'appelle GKA pour Joël Cabena Allen. Cette compagnie compte donc deux branches, Ijo et Joël Allen Collection. On vient d'en parler. Vous m'avez dit quand on préparait cette émission que le talent ne suffit pas, mais il vous faut aussi comprendre, il vous fallait rentabiliser votre business. C'est pour ça que vous avez été encore à une école à New York pour vous perfectionner, comprendre comment fonctionne le monde de la mode. Quelle est cette chaîne qu'il faut suivre? Quelle est cette chaîne de production, du choix du tissu, des matériaux qu'il faut travailler, du modèle que même vous dessinez? Comment ça fonctionne, l'industrie de la mode?
Comme je dis encore, l'avantage que j'avais, c'est vraiment d'avoir des personnes qui pouvaient m'aider à comprendre ce mot de la mode. Et j'ai vite compris que juste avoir le talent, la créativité et la capacité de faire un vêtement n'est pas nécessairement assez pour réussir dans ce monde de la mode et réussir à avoir une ligne de couture. Donc, les étapes que j'ai appris, c'est d'abord dans la création. Quand on crée une collection, savoir la décrire, savoir c'est quoi qu'on essaie d'exprimer à travers cette collection. Et dès qu'on est prêt, après avoir créé cette collection, il y a plusieurs étapes qui suivent. La prochaine étape, c'est que à New York, c'est que il fallait que je travaille avec comment on appelle un pattern maker. C'est une personne qui fait des patrons. Parce que moi, en fait, quand je suis allée au lycée de la Gombe, le lycée technique de la Gombe, j'ai appris à faire des patrons. Mais ces patrons,
sont ces modèles sur lesquels vous prenez les mesures ou vous dessinez. Expliquez-nous.
Après avoir dessiné une robe, par exemple, il faut avoir un papier et un patron. Voilà. Donc le même modèle doit se transférer sur papier.
D'accord.
C'est ça qu'on appelle des patrons.
Okay.
Voilà. Et c'est une partie vraiment importante pour réaliser un vêtement.
Okay.
Alors, si le patron n'est pas bien fait, c'est difficile de réaliser un vêtement de haute qualité. Alors, donc, une chose que j'ai remarquée aux États-Unis par rapport à Kinshasa, c'est que ces étapes, vous avez chaque personne qui est spécialisée en la matière. Ce qui fait que c'est le travail un peu plus effectif, c'est un résultat un peu meilleur parce que moi, je suis designer, donc je crée des modèles.
Des modèles, oui.
Et la personne qui fait des patrons, c'est une autre personne qui est spécialisée en la matière et qui fait des patrons qui ont un langage international. Donc, ce sont des patrons qu'on peut envoyer en Chine, en Europe, et on peut lire ça.
C'est des standards de taille, c'est ça?
Oui, c'est des standards de taille, et c'est un langage universel. Et ensuite, après ça, il y a une personne qui est spécialisée dans les échantillons, qui va vous créer ce premier échantillon. Et à partir de cet échantillon, si le designer est satisfait, on peut reproduire plusieurs vêtements.
En fait, vous faites, ce que si je comprends bien, Joël Allen, vous faites un modèle, et puis il y a deux, trois autres personnes qui travaillent avec vous de manière très étroite, pour voir finalement quel sera le rendu sur le mannequin, sur une femme.
Sur une femme, voilà. Et s'il y a des corrections à faire, en tant que designer, je regarde, je dis non, ça, par exemple, il faut changer. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette perfection. Parce que c'est vrai que j'ai les qualités, j'ai l'habilité de faire toutes les 4 étapes. Mais on a un peu cet esprit perfectionniste aux États-Unis de présenter un vêtement qui est parfait.
Mm-hmm. Vous parlez de collection, combien de temps ça vous prend comme ça pour mettre en place justement une collection?
Pour moi, ça me prend à peu près 6 mois.
6 mois quand
oui,
même.
6 mois, le temps de créer, de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et cette étape, justement, comme j'explique, de patron au chantillon et réalisation de vêtements.
On va parler maintenant de vous, Joëlle Mumba-Allen, comme femme entrepreneur. Vous m'avez suivi des cours de business pour vous perfectionner, finalement, dans cette entreprise que vous avez montée. Les relations de votre époux vous ont beaucoup aidé aussi pour vous introduire dans le milieu de la mode, comprendre son fonctionnement. Quel est l'apport de l'homme dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Comment est-ce que vous voyez la question?
Oui, c'est une très bonne question. Une très bonne question. L'homme a justement beaucoup, un très grand rôle à jouer dans tout ça. Et vraiment, je remercie mon mari qui est formidable, qui m'a beaucoup aidée. Il m'a vite fait comprendre que le talent que j'avais, c'était pas assez pour réussir dans ce milieu de la mode. Parce que, en fait, avoir une ligne de couture, c'est un business. À ce point, c'est un business. C'est pas juste un talent. C'est pas juste qu'on sert un client par-ci, par-là. C'est une compagnie qu'on a créée. Et j'ai vite compris que, voilà, il fallait que je puisse m'éduquer un peu plus dans le monde de business, de comprendre c'est quoi avoir une compagnie, c'est quoi avoir des stratégies, d'avoir un planning, de planifier des étapes et avoir des buts que je veux atteindre financièrement et le marketing, le branding. En fait, c'est plusieurs sections qui influencent pour la réussite de cette ligne de couture. Donc, je remercie vraiment mon mari qui a joué un grand rôle dans ce sens, qui m'a vraiment poussée à repartir à l'école et prendre des cours de business. Et lorsque j'ai pris ces cours à New York, j'ai beaucoup appris. J'ai compris que la partie créative de créer un vêtement, c'est une petite partie.
C'est minime,
en fait. C'est minime pour réussir dans cette entreprise.
Et il faut aller beaucoup plus loin.
Aller beaucoup plus loin, voilà.
On a souvent parlé de la RDC, du Congo, comme étant justement ce pays de la mode, de la culture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art culinaire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, justifie peut-être que nous soyons un peu à la traîne par rapport à l'industrie de la mode, par rapport aux autres nations, vous les avez citées, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria aussi. Oui. Qu'est-ce qui justifie que nous soyons un peu à la traîne? Est-ce que vous comprenez cela?
Oui, je crois que on est resté au côté créatif, comme j'expliquais. On a beaucoup de créativité, on a beaucoup de goût dans la mode, mais on n'a pas su associer ça avec le côté business. Parce que, par exemple, le Nigeria, il est très bien organisé. D'abord, dans l'idée qu'on doit consommer ce qui est africain. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup après, par exemple, parce qu'il y a une grande communauté nigérienne aussi aux États-Unis. Donc, le Nigeria, par exemple, ils encouragent les Nigériens à acheter des vêtements qui viennent de leur pays par rapport à valoriser, par exemple, Chanel ou des lignes,
des grandes marques
de couture qui sont pas africains. Je crois que d'abord, le fait que le Congolais commence à valoriser, à acheter plus des marques de son pays, je crois que c'est une révolution, en fait, qui va changer le monde de la mode.
Est-ce que le problème, peut-être pour le consommateur, c'est pas aussi au niveau de la qualité?
Voilà, je crois que
parfois
c'est un problème.
Parfois, on hésite parce que c'est un problème de qualité.
C'est un problème de qualité et de reproduction. Je crois qu'on a quand même au Congo des couturiers qui font du travail de très haute qualité. Mais une chose qu'on n'a pas su faire par rapport au Nigeria, c'est de reproduire la même qualité, mais en plus grande quantité. Parce que là, on peut vendre plus, on peut atteindre un marché qui est un peu plus grand que 2-3 clients par-ci, par-là.
Vous vendez essentiellement, vous avez dit, à New York et un peu à Miami, mais pour quelle quantité aussi?
Aux États-Unis, en fait, on peut pas créer une ligne et penser juste 10, 20 vêtements. Il faut penser à 50, 100 dans les milliers. Il faut penser grand. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi ouvert l'esprit, que je pouvais pas créer un vêtement juste pour 10, 15, 20 clients ici. Donc, il fallait vraiment justement créer une ligne qui a au moins 50, 100. Pour un seul modèle qui se reproduit au moins par 50 ou 100. Donc, des grandes quantités, en fait.
Des grandes quantités. Ouais. Alors, Joëlle Mumba-Allen, on parle beaucoup ces derniers temps, j'ai envie de dire ces dernières années, de l'entrepreneuriat féminin. On encourage les femmes à s'y lancer. Comment vous, partant de votre expérience, vous comptez promouvoir justement ce type d'entrepreneuriat dans votre domaine essentiellement, celui de la mode?
Oui, d'abord, je crois que d'abord pousser les femmes à faire un travail de qualité, parce que la qualité, quand vous avez la qualité, vous savez vous séparer. Et vous pouvez toujours réussir, même si c'est un petit travail, mais vraiment y mettre de tout, donner le meilleur de soi, faire un travail vraiment qui sera pas comme tous les jours. Bon, quelque chose vraiment d'exceptionnel, quoi.
Se démarquer.
Ouais. Se démarquer. Il faut savoir se démarquer à travers le travail qu'on fait. Et ensuite, se dire qu'on est capable de le faire. Je pense que ça commence dans la tête. Quand on se dit qu'on est capable de le faire, sans se décourager, parce que nous, c'est vrai, la femme, elle a plus de challenge, comme on dit, par rapport à l'homme, parce qu'on a des enfants, on a une maison, on a un mari. Mais je crois que lorsqu'on se dit que c'est ça, c'est pas une raison d'échouer, c'est pas une raison, c'est d'arrêter en fait notre vision de poursuivre nos rêves. On est capable d'aller plus loin, voilà.
Mmh. Alors, vous ne dormez pas sur vos lauriers, hein, femme entrepreneur, oui. Très battante. En 2011, vous avez organisé le Test of Africa, qui était un peu, c'est une exposition axée sur la culture africaine, la mode aussi, l'art culinaire. Qu'est-ce que vous vouliez vendre? Qu'est-ce que vous vouliez exporter? Qu'est-ce que vous vouliez montrer aux New-Yorkais?
Oui, justement, c'est que une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé de faire le Taste of Africa, c'était en fait une expression encore. Le fait que je suis mariée avec un Américain, je connais un peu leur culture, je comprends un peu ce qu'ils pensent de l'Afrique, et j'ai remarqué que c'était très négatif. La plupart se disent qu'on vit dans les arbres, tu vois, par exemple, qu'on n'est pas civilisé, tout ça. Donc j'ai senti en moi une responsabilité de montrer ça au monde, qu'on a un côté, on a une culture riche, on a beaucoup de créativité. Et c'est un événement qui a eu beaucoup de réussite, beaucoup de succès, et que les Américains ont beaucoup apprécié, parce que d'abord on l'a fait dans un musée d'art, c'était à Indianapolis, et on a pu avoir plusieurs couturières congolaises qui vivaient aux États-Unis, en France, au Congo, qui ont fait un très bon travail à travers leur collection. Et on avait la télévision Fox News qui était aussi venue pour filmer, en fait, voir. À part ça, on avait la nourriture congolaise, les accessoires et tout ça. Donc, les gens sont quand même venus voir, et ils ont beaucoup apprécié de voir la créativité qu'on a, la richesse de notre culture à travers la musique, la mode et les accessoires, voilà.
On parlait des autres nations, des autres pays africains qui essayent de se distinguer, hein, ou de s'affirmer dans le monde de la mode. Mm-hmm. Ici à Kinshasa, on a connu le Kinshasa Fashion Week, le Congo Fashion Week. Ça veut dire qu'il y a des activités comme ça dans le domaine de la mode qui se font au Congo. Est-ce que vous les suivez peut-être de près ou pas? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et quel est cet apport qu'on peut attendre de vous par rapport au projet que vous avez?
Bon, moi, je pense que d'abord, pour réussir, par exemple, un Fashion Week, il faudrait que la qualité des designers soit un peu plus que ce qu'on a ici à Kinshasa. Bon, j'ai entendu parler de ça, mais franchement, pas beaucoup de positivité. Et je pense que si vraiment on veut faire comme le Nigeria ou le Lagos Fashion Week et tout ça, il faudra d'abord que la qualité soit, je veux dire, 10 fois mieux que ce qu'on a. Si par exemple les couturiers sont capables de faire quelque chose de plus grande qualité, de plus grande quantité, ils se font déjà un nom. Et beaucoup de structures aussi dans cette organisation de Fashion Week. Beaucoup de soutien de médias. Et aussi, enfin, je pense que ça fait que... C'est une chose qui fait la réussite de Fashion Week, c'est que la population apprécie ça et valorise ça.
Est-ce que vous avez, vous, participé à des Fashion Week à New York, par exemple, ou dans d'autres villes aux États-Unis?
Bon, couramment, je travaille pour le Midwest Fashion Week. C'est un Fashion Week qui a commencé à Chicago, parce qu'il y a une réalité aux États-Unis. En tant qu'Africain, en tant qu'étranger, on a du mal à vraiment s'intégrer dans le milieu de la mode. Il faut dire qu'il y a une réalité, c'est un problème aussi de race qu'on a à New York. Tu as les Blancs qui peuvent facilement évoluer, et quand on est dans la minorité, c'est vraiment un grand challenge de pouvoir se démarquer, faire un nom par rapport aux Américains Blancs, par exemple. Et voilà pourquoi le Midwest Fashion Week a commencé. C'est le fondateur, c'est un Haïtien d'origine qui essaie un peu, voilà, qui a créé cette plateforme pour les designers de la minorité qui sont africains, qui sont asiatiques, qui sont
qui ont du talent, voilà, mais qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer,
voilà, qui n'ont pas d'espace. Et c'est quelque chose qui a, il a créé ça, ça fait à peu près, je crois, 5 ans, mais ça a beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Ils sont à Chicago, ils sont à New York et Paris. Et moi, j'ai pu joindre cette équipe l'année passée en tant qu'organisatrice. Et à travers le Midwest Fashion Week, on peut, voilà, justement s'exprimer. Mais c'est vraiment un travail de haute qualité. Quand vous participez au Midwest Fashion Week Paris, par exemple, il y a les médias comme Vogue, il y a vraiment, c'est un travail de haute qualité. Et je pense que si on a cet esprit-là et qu'on emmène ça au Congo, de savoir qu'on va pas faire comme tout le monde, il faut qu'on fasse quelque chose de haute qualité, de bien organisé, et faire ça constamment à la longue, je pense qu'on pourra justement se démarquer.
On pourra se démarquer, peut-être s'imposer. La toute dernière question, vous êtes à Kinshasa depuis une semaine, vous allez bientôt repartir aux États-Unis. Est-ce que votre retour signifie que Kinshasa peut être une bonne opportunité? Est-ce que ça signifie que les consommateurs ou consommatrices sont prêts aujourd'hui à acheter vos marques de vêtements?
Oui, oui, bien sûr. C'est d'abord une responsabilité pour moi de revenir chez moi et de ramener ce que j'ai appris, ces formations que j'ai pu obtenir aux États-Unis. J'aimerais bien transmettre ça à la jeunesse. D'abord, changer un peu l'idée, quoi, la mentalité qu'on a.
Est-ce que vous avez étudié le marché? Est-ce que vous pensez que les quinoises, les consommatrices quinoises sont prêtes à vous recevoir, à vous accueillir avec vos marques? Parce qu'il ne suffit pas de venir des États-Unis, vous parlez beaucoup de qualité, mais est-ce qu'elles sont prêtes, selon vous, à s'habiller en Ijo ou Joel Allen Collection?
Oui, oui, elles sont prêtes parce que déjà aux États-Unis, j'habille des Congolaises aussi qui veulent des vêtements de qualité. Je pense qu'elles vont beaucoup apprécier la différence de mes vêtements par rapport à ce qu'elles trouvent. Moi, c'est vraiment le prêt-à-porter. C'est très clean, très chic. Et la plupart de mes clientes congolaises sont souvent surprises par la qualité des vêtements. Je pense que c'est quelque chose qui va très bien marcher, très bien se vendre à Kinshasa. Oui.
Merci beaucoup à vous, Joël Mumba-Allen. C'était un plaisir de vous recevoir. Hein. Nous vous souhaitons bonne chance pour vos projets. Vous êtes modéliste ou fashion designer en anglais, femme entrepreneur. Vous avez lancé deux lignes de vêtements qui s'appellent Ijo et Joel Allen Collection. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Narcisse Baya qui y a collaboré. Alain Goy a assuré la mise en onde, était au micro. Nana Polojoy et Léo Moton, on se retrouve avec vous la semaine prochaine.